Bienvenue au Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric.
Bonjour.
Et nous allons aborder toute la transformation que les SOC doivent subir avec le passage en info nuagique, principalement AWS, mais probablement ça s'applique aussi à l'ensemble des solutions disponibles.
Bonjour à tous. Bien content de te retrouver, Nicolas.
Également.
Donc, effectivement, on peut se poser la question légitimement à savoir quels sont les impacts sur votre SOC ou votre équipe de sécurité opérationnelle dès l'instant où vous commencez à migrer une charge de travail dans l'info nuagique. Puis, je pense que c'est une question qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un impact, en tout cas, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'effectivement, on l'avait un petit peu abordé la fois précédente, la dernière fois, c'est cette migration dans l'info nuagique, ça s'accompagne légitimement d'une accélération. En tout cas, c'est un peu la promesse de l'info nuagique, c'est de mettre à disposition des équipes projet une capacité de livrer des nouvelles fonctionnalités de façon beaucoup plus rapide, une capacité également de revoir un peu les architectures vieillissantes pour prendre des bons réflexes, des meilleures façons de concevoir les architectures, donc avec beaucoup plus de redondance, de haute disponibilité, une agilité, une élasticité qui va nous permettre d'absorber une évolution de la charge de travail sans qu'il y ait forcément des ralentissements. Bref, il y a cette accélération globale, cette facilité qui est offerte, elle a un impact sur la surveillance parce que de facto, ça signifie que votre SOC, votre équipe de sécurité opérationnelle, elle va devoir s'adapter pour être capable de suivre le mouvement en essayant d'éviter de se retrouver comme un bottleneck, là, comme un ralentissement de tous vos équipes projet. Donc ça, c'est un peu un enjeu. Puis je pense souvent, il y a souvent la question, par exemple, des règles de pare-feu qui peut être une bonne illustration. Dans une sécurité on-premise, vous avez toujours l'équipe de sécurité opérationnelle qui vient dans le processus de mise en place d'un serveur sur Internet comme un élément de contrôle pour valider les ports qui sont exposés, valider les règles de pare-feu et les implanter. Alors parfois, ça peut être l'équipe réseau plutôt que l'équipe de sécurité, ça dépend de l'entreprise, mais vous avez toujours ce point central vers lequel convergent toutes les équipes projet.
La sécurité est toujours le goulot d'étranglement. Ouais, on est vraiment le problème.
Et puis là, tu as plein de chargés de projet qui se retrouvent face à toi, qui essayent de t'expliquer que leur demande, elle est plus prioritaire que celle du voisin parce que ils ont une mise en prod qui est le lendemain et puis que si on leur fait pas leur règle de pare-feu, c'est foutu, ils vont pas être capables de livrer à temps et ça sera la faute de la sécurité. C'est hyper inconfortable, on veut pas ça et puis on veut plus ça. Donc en même temps, ce point de contrôle, il est quand même intéressant parce que ça nous permet d'éviter que n'importe quoi soit fait sans forcément mauvaises attentions. Et pour ça, dans l'info nuagique, on va essayer de réfléchir autrement. On va essayer de réfléchir avec les fameuses guardrails, les fameuses barrières qu'on va mettre. Donc l'idée, c'est de on va peut-être laisser certaines capacités aux équipes projet pour qu'elles puissent livrer de façon très rapide, sans barrière, enfin sans frein. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on va les laisser faire n'importe quoi. Et puis, tu vois, c'est là l'évolution, notamment sur le SOC et la SecOps, c'est qu'elle va devoir être plus en mode seulement réactif, mais elle va devoir commencer à réfléchir en mode à anticiper et à préparer l'arrivée des équipes projet avec des règles, des automatismes. L'automatisation, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, c'est quelque chose qui devrait se retrouver beaucoup plus, justement, dans une équipe de SOC dans l'info nuagique.
Effectivement, ça, l'automatisation, mais les gabarits, les patrons, tout ce qui permet d'appliquer de façon immédiate. Tu l'avais d'ailleurs mentionné au dernier épisode qu'il y a des suites automatiques. Fait que de développer ces patrons-là qui permettent la mise en place automatique de règles de sécurité selon le type de composant est une amélioration. Et justement, le fait qu'on est, la sécurité n'est plus un frein, on n'est plus le maudit département du nom, puis ceux qu'on attend après, mais devient ceux qui vient favoriser l'évolution, l'amélioration et, par le fait même, l'augmentation de la protection des actifs de la compagnie pour, et non de, d'aller sauvagement sur Internet et d'exposer le port SQL à tout vent, là.
Ouais, c'est ça. J'aime bien l'idée, si tu veux, de la sécurité qui vient encadrer, mais qui vient pas se placer comme une étape obligatoire, comme un frein. Tu vois, et puis, comment on fait pour être capable d'encadrer et puis sans être un frein? Ben, certes, il y aura des choses qui vont être interdites de facto. Mais c'est pas grave. Si tout le monde le sait à la base et que c'est une règle qui est partagée dans l'entreprise, on se rendra compte que ça se passe très bien. Des règles de bon sens, comme par exemple exposer un port d'administration sur Internet. Non, ça se fait pas. C'est juste pas possible. On n'expose pas un port SSH sur Internet grand ouvert. On n'expose pas un port RDP sur Internet grand ouvert. Ce n'est pas une bonne pratique et il n'y a pas de vraie justification business pour permettre ce genre de comportement. Il y a toujours moyen de mettre un filtrage par IP, il y a toujours moyen de mettre un bastion. Donc ça, surtout dans l'info nuagique, en plus, il y a encore d'autres moyens d'ailleurs pour y accéder de façon sécuritaire. Donc non, on peut le bloquer et on le dit à l'avance et on met des automatismes, on met des règles dans le pipeline de dev, on met des règles dans l'environnement info nuagique qui font que ça va être, de facto, ça va être bloqué ou corrigé si jamais c'est effectué. Après, par contre, pour d'autres types de ports, et ben là, ça va être des règles, ça va être des comportements plus de surveillance. Ça va être des comportements également, par exemple, s'assurer que s'il s'agit d'un port web 80.443, 80.80, les choses habituelles qu'on connaît, eh bien, on va automatiquement s'assurer qu'il y a un WAF qui est associé, par exemple, dès l'instant où c'est exposé sur Internet. Tu vois, c'est le genre d'automatisme, de règles qui est comme de bon goût, puis assez logique, assez facile, je pense, à faire accepter et comprendre. Après, il peut y avoir, par exemple, le fait qu'on va systématiquement rechercher qu'il y a du TLS, on va s'assurer que c'est des ports chiffrés, et puis on va essayer de traduire en fait les règles d'analyse que l'équipe avait auparavant, qu'elle gardait pour elle dans son coin, et puis parce qu'en fait c'est ça, tu sais, les équipes projet, elles arrivaient avec leurs demandes, il y avait comme une analyse mystérieuse qui est faite par l'équipe sécurité, on ne sait pas trop sur quelle base, avec quel référentiel, mais bon, c'est comme ça, on respecte, et puis ça revient, hop, c'est autorisé ou c'est interdit. Et, ben là, en fait, ces règles, il va falloir justement vraiment travailler dur pour les rendre très cartésiennes, les rendre, claires, et puis donc de facto automatisables à ce moment-là. Une fois qu'elles sont claires, on va pouvoir faciliter l'automatisation. Et puis, oui, également, il va falloir prévoir des dispositifs d'exception, parce qu'il y a toujours des exceptions dans la vie, dans les TI, malheureusement. Donc, il va falloir aussi ne pas aborder ces ensembles de règles de façon trop dogmatique, mais accepter déjà la différence entre des environnements de production et des environnements de développement. Évidemment, on ne doit pas avoir les mêmes types de règles. Et puis, accepter aussi qu'il peut y avoir des exceptions. Comment on fait pour les gérer de manière intelligente, de manière la plus fluide possible. Donc, tu vois, c'est ça, c'est toujours cette idée, cette recherche de fluidité, cette recherche d'encadrement, mais en essayant de pas être un bloquant, en fait.
Effectivement, mais de toute façon, tu as amené un aspect intéressant, c'est que le niveau du guardrail, au niveau de l'accompagnement que la sécurité va faire, il y a aussi tout l'élément surveillance qui est assez fondamental à l'existence même du SOC, puisque maintenant on a une capacité différente de surveiller parce que c'est plus tu faisais référence au couvre-feu, c'est plus le même genre de règles qu'on va observer, c'est plus le même genre de log, c'est plus un espèce de flux infini de log qu'on va recevoir du firewall. Une info nuagique est beaucoup plus restreinte, mais en même temps beaucoup plus utile et peut-être beaucoup plus mise en contexte en rapport à ça.
Ouais, et puis alors la surveillance, c'est un autre, c'est peut-être même le changement majeur, encore plus, qui se voit moins par rapport aux équipes projet, c'est moins perceptible pour la clientèle, mais par contre, à l'intérieur de l'équipe, c'est vraiment un changement profond. C'est premièrement, être capable de réfléchir à les signaux qu'on va récupérer de l'environnement infonuagique, sur quels signaux va se baser notre surveillance. Donc, les alertes. Sur quel type d'alertes vont se baser notre surveillance. Donc là, évidemment, il faut qu'on retrouve, il nous faut des alertes qui fassent du sens, qui soient efficaces, pertinentes. Alors, chaque chaque fournisseur info nuagique d'importance propose des solutions de sécurité natives qui vont être capables justement de faire de la surveillance du trafic réseau, qui vont être capables de faire la surveillance de comportement utilisateur à l'intérieur de l'environnement. Donc ça, c'est important. Il faut être capable de récupérer, centraliser ces alertes et puis être capable de les, si possible, injecter dans notre plateforme de gestion des incidents, quelle qu'elle soit, que ce soit un SIEM, un SOAR, whatever. Et puis, ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a récupéré, qu'on a vraiment, qu'on s'est assuré qu'on avait suffisamment d'alertes de qualité, qu'on a couvert un scope assez étendu, c'est comment on fait pour investiguer. Parce que c'est bien de récupérer des alertes, mais l'objectif, une fois qu'on les a, c'est de les qualifier et de les investiguer pour s'assurer si elles représentent effectivement une menace ou pas. Et puis, cette capacité d'investigation, bah là, typiquement, c'est le mur de la formation. Là, c'est l'enjeu de la formation dans ton équipe de SOC ou de sécurité opérationnelle. Parce que ben, si on parle d'AWS, tu vas demander à tes analystes d'être capables de faire des requêtes, par exemple, dans CloudWatch, de pouvoir faire des requêtes directement dans les logs qui sont déposés dans CloudWatch. Tu vas leur demander d'être capable d'investiguer des VPC Flow. Tu vas leur demander d'être capable d'aller dans config, retrouver les différents états de configuration d'un objet pour retrouver qui a modifié telle, par exemple, règle de pare-feu. Donc, c'est énormément de solutions natives propres aux fournisseurs info nuagiques. Et puis, si le SOC, on a des gens qui sont très qualifiés en processus d'investigation dans ce savoir-faire, cette compréhension de la SecOps, c'est pas forcément des experts AWS ou Azure ou GCP. Et puis ça, ben il y aura pas d'autre choix si on veut pouvoir compter sur notre SOC pour aller plus loin que juste recueillir les alertes. Il faut qu'ils puissent investiguer, donc il faut qu'ils connaissent l'environnement, qu'ils le comprennent, tu vois, de façon quand même assez fine.
Il y a deux éléments là-dedans que tu mentionnes puis qui me chatouillent parce que pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, ils ne sont jamais pas présents. C'est-à-dire que, un, la solution infonéologique, elle est excessivement bien documentée et bien maîtrisée par le SOC. Et la deuxième, c'est que les opérateurs, les kings dans le SOC doivent être capables de manipuler, là, tu peux mentionner AWS principalement, là, mais être capables d'aller creuser, dans le fond, d'être des espèces d'experts dans tout et dans rien en même temps, en infonéologique, parce qu'il faut qu'ils soient capables de toucher à tout et tout comprendre l'environnement également aussi. Fait que c'est un défi quand même qui est très intéressant.
Ben exactement. Si on prend par exemple son pendant dans Azure par exemple met à disposition une super solution SIEM/SOAR qui est Sentinel. Bon, c'est sympa de recevoir des alertes, des incidents depuis Sentinel, mais ça suffit pas. Faut être capable de se connecter, de faire des requêtes KQL qui soient un petit peu assez poussées si on veut vraiment fouiller dans nos logs, potentiellement être capable de réagir rapidement en faisant des playbooks, en créant des playbooks. Tu vois, faut vraiment être capable de travailler ce SIEM qui est Sentinel. Et puis oui, ça demande des compétences à chaque fois qui sont adaptées. Ça c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre d'une migration vers l'info nuagique, c'est un point que j'essaye de ramener souvent et puis de mettre en avant. On pense toujours à former les équipes de développement, on pense souvent aussi à penser les gars d'infrastructure, parce que forcément, ils vont déplacer leur VM vers l'info nuagique, vers le cloud. Mais la sécurité, notamment la SecOps, elle est parfois un petit peu oubliée. On a comme l'impression que, ouais, bah écoute, ils sont derrière leur SIEM, donc ça va être pareil, ils vont continuer à être derrière leur SIEM. Mais non, ça, c'est une grosse erreur. Là, il faut effectivement faire le même effort de formation pour la SecOps que pour les autres équipes d'infrastructure et de développement, parce qu'il y a beaucoup de changements et ils doivent être capables de bien comprendre les différents objets infonuagiques. Investiguer d'ailleurs, c'est, tu vois, il y a encore une troisième étape là. La première étape, c'était les signaux, installer la technologie nécessaire, configurer la technologie nécessaire pour obtenir des signaux, des alertes de qualité. Deuxième étape, c'est l'investigation, être capable de manipuler les objets, de les comprendre, de fouiller dans l'environnement info nuagique. Mais en réalité, il y a encore une troisième étape quand tu atteins un certain niveau de maturité. Puis c'est là où tu es content. Là, c'est là où tu te dis, OK, là, on a fait notre job. On a un SOC qui est sur la coche. C'est quand ce SOC il commence à scripter et à faire de l'automatisation. C'est-à-dire qu'il va plus se contenter de recueillir des alertes et puis d'investiguer sur ces alertes. Une fois qu'il va avoir investigué sur ces alertes, il va détecter des patterns, il va voir des faux positifs habituels ou il va voir des choses soit qui se répètent. Puis là, il va commencer à automatiser. Pourquoi? Parce que justement, l'info nuagique nous propose, nous offre cette facilité. Tu vois, c'est que ce soit Azure, GCP, AWS, on va pouvoir faire des Lambda, du serverless, des Azure Functions qui vont être capables de réagir automatiquement sur certaines alertes. Et puis, par exemple, tu vois, le coup du, on a parlé tout à l'heure du port 22 qui est exposé par erreur sur Internet. Bon, on va pas se contenter de se lever une alerte. On va avoir une lambda qui va en fait se déclencher et puis qui va automatiquement supprimer, corriger cette exposition sur Internet. Donc là, tu arrives à un autre niveau, tu arrives vraiment à un niveau de maturité où tu es en plein contrôle en tant que SecOps ou en tant que SOC.
Ouais, ben c'est essentiellement tes playbooks qui ont été mécanisés. Là. Tu parlais de lambda dans le cas d'AWS et des Power Automator au niveau de Azure qui est leur plateforme magique, là, incluant les éléments qui suivent. Là. Mais ça demande quand même, puis ça revient, je reviens encore à ça, c'est une connaissance très, très profonde des opérateurs du SOC. De l'info nuagique, puis jusqu'à présent, moi, je l'ai rarement vu. J'ai vu ils font former, effectivement, comme tu dis, les développeurs. Parfois, les personnes d'infra, mais peu ou littéralement pas du tout, puis ça demande des compétences très vastes, puis c'est un peu, je pense, l'erreur qu'on fait en sécurité. On a l'impression que c'est un champ de compétences en soi, mais pas oui, mais on est appuyé énormément sur le travail des autres. Fait que si on n'a pas de connaissances en développement, si on n'a pas de connaissances en infrastructure, ben on est un peu... pas très utile finalement. Là.
Et je pense que c'est, tu vois, ce petit retard dans la perception de l'importance de la formation de nos équipes sécurité dans l'info nuagique est peut-être dû au fait qu'aujourd'hui, la majorité de notre workload est encore sur site, est encore à l'intérieur de nos réseaux, notamment au Québec. Au Québec, on constate qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui sont au début de leur journey to the cloud. Là. Et si bien que le risque, ben, il est associé, effectivement, d'ailleurs, en partie à juste titre, il est encore associé à de l'infrastructure sur site, donc à des savoir-faire qui sont traditionnels. Si bien qu'on ne voit pas le risque, on se dit, OK, ben, écoute, de toute façon, la majorité de notre infra est encore sur site, donc tout va bien. Mais le problème, c'est que cette formation, cette capacité d'évolution de notre équipe, de nos équipes de sécurité, ben ça prend du temps quand même, tu vois. C'est sûr qu'on ne peut pas demander à une équipe de se réinventer du jour au lendemain, parce qu'en plus, entre gars de sécurité, on connaît la situation, c'est qu'en général, l'équipe sécurité, elle est toujours sous-staffée. On a toujours énormément de difficultés à recruter des compétences en sécurité. Donc, ces gens-là, ils sont déjà sous tension. Ça va prendre du temps de les accompagner, de leur faire prendre un chemin de formation. Et puis, ce qui va se passer, malheureusement, c'est prévisible, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir un effet de levier où ton entreprise va commencer à avoir une majorité, plus de 50% de son infrastructure dans l'univers info-nuagique. Puis c'est là que les lumières vont commencer à s'allumer, où il y a des gens qui on va réaliser que, oups, là, il y a un risque qu'il y ait un sinistre, qui est effectif, il y a un vrai risque dans l'info nuagique désormais qui est plus important que le risque dans mon infrastructure sur site. Puis c'est là où on va se rendre compte qu'il faut mettre les bouchées doubles sur la sécurité parce que c'est ça, l'info nuagique est un risque également, tout autant que l'infrastructure sur site.
Ça amène un autre élément, puis justement, tu m'as un peu devancé, c'est le volet hybride, parce que c'est aussi ça un aspect très important au niveau de la journalisation, parce que là, tu as mentionné Sentinel, c'est bien, mais Sentinel, c'est dans l'info nuagique. Mais la réalité, c'est que, puis comme tu mentionnais au Québec, on n'est pas très avancé encore, mais on est encore dans un modèle très hybride où on a encore au moins 50% de notre workload sur site, puis on a l'autre 50% dans le nuage. Et là, comment on réconcilie le fait de la journalisation qui est dans les deux environnements, dans les deux univers, et tout le volet d'automatisation et de compréhension des gens à ces différences-là et à cette complexité nouvelle-là qui est temporaire, mais qui est quand même présente.
Alors, Je te dirais, bon, là, on a vraiment deux points. L'aspect technique, là, que tu as abordé avec la journalisation, et puis l'aspect vraiment plus capacité, formation et capacité humaine de livraison là, pour la sécurité. L'aspect technique, on n'a pas tant de problèmes aujourd'hui là parce que on est capable effectivement, même avec des solutions cloud-based comme Sentinel, on est tout à fait capable d'aller recueillir tes logs qui sont sur site. On est même capable de faire des connecteurs pour récupérer des logs de ton mainframe. Donc c'est pour dire, c'est pas facile. D'ailleurs, on a eu cette expérience là, mais on est capable de le faire. Ça peut fonctionner. Donc aujourd'hui, on n'a plus tant de freins que ça. Et d'ailleurs, je recommanderais justement aujourd'hui de, notamment justement, tu sais, pour des SIEM ou des log collecteurs ou des choses comme ça, bah, d'aller chercher cette élasticité dans l'info nuagique dessus le plus tôt possible, hein, de pas continuer à s'enquiquiner avec des infrastructures sur site, ou du moins quand on n'a pas de technologie ou des cas d'usage particuliers où on a déjà on est une entreprise qui a énormément de capacité de disque parce que on est une entreprise qui fait du stockage multimédia ou toi des cas particuliers comme ça, mais pour la majorité des entreprises, allons chercher l'élasticité dans l'info nuagique pour faire notre archivage de log. On a énormément de dispositifs et de savoir-faire possibles. Donc je pense que c'est un bon use case, c'est vraiment intéressant. Par contre, la question sur la capacité humaine, bah là, c'est plus compliqué. parce que faut aussi quand même souligner que ce mode hybride, malheureusement, il va durer. Je parlais de cette bascule qui va se passer où à un moment donné, on va avoir plus de 50% de notre workload dans l'info nuagique. Mais le truc, c'est que ça va pas passer 50%, ça va pas faire pof comme ça d'un coup. Allez, on est à 100%, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des systèmes legacy qui sont pas transférables dans l'info nuagique, et puis qu'on promet de décommissionner dans les années prochaines, et puis qui seront encore là dans 5, 6, 10 ans. Ça, malheureusement, on en a plein dans quelques ministères, entre autres, mais dans des grosses entreprises aussi, hein, dans le monde de la, même dans le monde de la banque, par exemple, on le sait, on a beaucoup de mainframe qui va être difficile à décommissionner dans le monde de la banque et de l'assurance. Donc, je pense qu'on va malheureusement garder ce côté hybride pendant encore de très nombreuses années. Alors, la solution pour l'équipe de sécurité, ben malheureusement, il n'y en a pas. C'est plate à dire, mais il n'y en a pas d'autre que de passer par une augmentation de ton staff, avec toute la difficulté que cela représente aujourd'hui, ou d'aller vers une externalisation d'une partie de ta surveillance avec un prestataire spécialisé dans l'environnement infonuagique en question, par exemple. C'est les deux seuls modèles que je vois, parce que à staff constant, sans aller chercher un partenaire, je pense que ça va être beaucoup demandé à tes équipes d'être capable d'être vraiment compétent autant sur ton infrastructure traditionnelle on-premise que sur un voire deux fournisseurs info nuagiques, parce qu'il faut pas oublier qu'il y en a qui font le choix du multi-cloud également là, de plus en plus. Donc c'est, pour moi, ça va passer par une augmentation du staff, que ce soit à l'interne ou via un partenaire, forcément.
À ce moment-là, de toute façon, moi, l'avenue que je vois, c'est généralement les gens d'infrastructure les recycler en sécurité, puisqu'ils ont déjà une bonne connaissance. Et l'aspect infrastructure va s'en aller en nécessairement en diminuant du côté infonuagique. Là. Donc, ça rajoute un peu de capacité au niveau de ce genre-là, mais c'est déformé aussi. On revient toujours, il faut former ces gens-là correctement pour les aider à être utiles et à être compétents dans leur chemin. C'est tout que des défis. Mais moi, le monde hybride est probablement la plus grande difficulté.
Et je te dirais même, oui, t'as un très bon point sur le fait de former des gens d'infrastructure à la sécurité, mais je te dirais même, pourquoi pas des développeurs. On a eu la chance dans mon entreprise de recruter des anciens développeurs, et dans un monde infonuagique où la sécurité est poussée à ce code, où j'en parlais justement, quand on arrive à un certain niveau de maturité, on commence à mettre en place des contrôles automatisés. Donc tout ça, c'est avec des lignes de code de Python. Hein. Donc à la fin de la journée, ça reste du code, quoi. Donc ces gens-là, ils sont capables de t'apporter justement dans les équipes sécurité une vélocité. Ils sont capables d'aider aussi à former tes gens plus traditionnels du monde de la sécurité. Ça crée quand même, tu vois, une petite osmose là. C'est vraiment sympa. Donc oui, il faut offrir cette opportunité à des profils qui sont pas forcément CISA, CISM traditionnels. C'est aussi très enrichissant pour nos équipes.
Effectivement, c'est vrai, tu amènes un bon point. Puis de toute façon, les gens qui n'ont pas de base, puis ça, c'est un problème que j'ai vu avec les gens d'infra, là, ils veulent pas coder, ils veulent pas faire du code. Fait que là, on est comme dans un monde où on se dirige vers vraiment beaucoup de code. Fait que là, c'est un peu troublant en ce sens-là d'être confronté à cette résistance-là de voir, parce que c'est finalement que du code. Là, on oublie, là, on... En tout cas, autant que possible, on ne configure pas juste à l'aide des interfaces graphiques, on code vraiment là, de façon très forte. Je vois que tu veux réagir. Là.
Ah ouais, bah écoute, ça, à un moment donné, là, il va falloir se dire quand même des vérités. On amène aussi souvent la question de est-ce que la migration infonuagique, ça ne va pas au final créer du chômage, ça ne va pas mettre des gens sur le carreau parce qu'on externalise une partie de notre infra, quoi. Moi, j'ai vraiment le sentiment, ma réponse, pour moi, elle est claire. Non, ça ne laissera personne sur le carreau si tant est que les gens sont prêts à évoluer. Parce que malheureusement, les gens qui ne veulent pas faire de code et puis qui restent fermés dans leur paradigme de console et de clic parce que c'est ce qu'ils ont appris il y a 10 ans, bah, ça, oui, c'est peut-être plate, mais c'est garanti que dans 10 ans, ces gens-là, ils vont avoir du mal à trouver de la job. Parce que c'est pas l'avenir. C'est sûr, là, que ce soit Azure, GCP, AWS, Alibaba ou n'importe quel cloud provider qui se tient, l'avenir passe par le code. Tout se fait par le code. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de pousser de l'infrastructure avec des clics parce que tu viens créer en fait des difficultés de suivi, des difficultés de contrôle, de supervision, d'automatisme. Donc tout va se faire par le code à un moment ou à un autre. Donc il faut l'accepter. Alors après, c'est pas non plus du code. On s'entend, il y a aussi de la supervision, par exemple, pour la sécurité dans les consoles, toujours, pour investiguer les alertes, bien entendu. Et puis, on va pas non plus demander aux gens de commencer à coder des applications de 50 000 lignes et puis de se transformer, tu sais, dans des équipes projets de code. Mais, veut pas, les outils de scripting et d'infrastructure as code vont de plus en plus prendre le devant de la scène et vont s'imposer, si on veut, dans le cursus de formation, dans le cursus d'évolution de nos spécialistes en TI. Ça, c'est sûr.
Effectivement, c'est un passage obligé. Si on revient plus au niveau du socle lui-même, comment on intervient? Disons, on va l'autre ballon du socle, c'est lors d'un incident, l'intervention lors d'un incident. Comment ce changement d'info nuagique-là vient influencer justement cette prise en charge d'un incident?
Ben, c'est la rapidité, théoriquement. Hein. Si tu livres la promesse qui devrait être la tienne en étant un socle spécialisé en info nuagique, t'es supposé justement livrer de la rapidité d'investigation et surtout de la rapidité de réaction. Pour ça, évidemment, il faut avoir fait ses devoirs, il faut avoir préparé, avoir déjà mis en place un environnement spécialisé pour l'investigation, le forensic. Il faut avoir mis en place des automatismes pour pouvoir déclencher des captures de disques d'image lisse, des captures d'image mémoire à distance depuis un environnement sécuritaire. Cette promesse, c'est avant tout, je pense, la capacité de réaction extrêmement rapide. Et puis, c'est sûr que la grosse différence, puis là, c'est pas fondamentalement d'ailleurs lié au SOC, mais c'est un impact sur le SOC, c'est qu'en théorie, t'es supposé avoir un environnement qui est quand même plus sécuritaire que ton environnement sur site. Si on se rappelle ce qu'on disait lors de notre dernière session, on est supposé avoir une baseline de sécurité qui est mise en place dans notre environnement infonuagique, un standard de sécurité. Et avec grâce à ce standard de sécurité, ben, qu'est-ce qu'on fait? On limite les impacts en cas d'incident. Grâce à une segmentation réseau, grâce à une à des accès qui sont donnés aux justacés, avec une révision des accès qui est beaucoup plus plus forte et plus en contrôle que sur site, parce qu'on a moins de legacy. Bref, quand on commence à avoir une attaque, on est supposé être capable de détecter et puis surtout de contenir plus facilement par la modernité de la charge de travail. Moi, il y a eu des cas hein, dans l'industrie d'environnement infonuagique qui sont faits breacher. On en a eu plusieurs. On a eu Tesla. Tesla s'est fait compromettre un pod, un conteneur dans leur infrastructure. Et puis, en fait, l'attaquant en a profité pour miner du Bitcoin, parce que a priori, il n'y avait pas vraiment de données accessibles depuis son conteneur intéressantes, sans doute. Donc, il a exploité en fait son footprint pour exploiter du Bitcoin. Ils ont mis plusieurs jours en fait avant de s'en rendre compte. In fine, ils n'ont pas été très bons là, pour le coup. À côté de ça, il y a eu un autre, je pense que c'est OneLogin, si je me trompe pas, qui s'est fait compromettre des clés de connexion. Eux, ils ont réagi en l'espace d'une ou deux heures. Ils ont été capables de détecter, de désactiver les clés, de renouveler les clés. Enfin, ça, il y a eu tout un processus qui s'est, tu vois, qui s'est enchaîné, un playbook hein, qui s'est enchaîné et qui a montré là pour le coup une vraie maîtrise de l'environnement, une compréhension effectivement de l'environnement infonuagique. Et ça, c'est vraiment l'objectif pour le SOC, c'est d'arriver à ce genre de résultat. Oui, il y aura toujours des incidents, c'est sûr. Ça, plus que jamais. Moi, je pense qu'il faut surtout pas le cacher. Mais si on a mis un standard de sécurité qui fasse du sens, qu'on a vraiment bien durci notre environnement infonuagique et qu'on a un SOC qui comprend l'environnement et qui a lui-même mis des automatismes et qui s'est entraîné à réagir, on va être capable, en tout cas c'est peut-être mon espoir, on va être capable d'arriver à des time to respond là, beaucoup, beaucoup plus agressifs, largement meilleurs que ce qu'on observe aujourd'hui.
Mais, puis là, je vais faire du pouce sur justement ton espoir qu'on aille vers du meilleur. À ce compte-là, on serait pas mieux que à même les projets, les nouvelles applications, les nouveaux projets, que les playbooks sécurité soient même développés à même ces projets-là, puisqu'il y a quand même un lien très fort entre l'application et comment l'équipe de sécurité devra répondre.
Ah, c'est vrai que dans mes mandats récents, moi j'ai observé justement dans des environnements où qui étaient vraiment avec des équipes projet qui étaient vraiment passionnées par l'info nuagique et tu vois qui étaient bien bien encadrées, qui étaient bien formées, j'ai observé que de même les équipes projet pensaient à la sécurité et puis commençaient à était vraiment en interaction avec la sécurité pour trouver des scénarios qui fassent le plus de sens possible en termes de réaction ou de contrôle, supervision de leur projet applicatif. Donc ça, c'est quand même le fun. À quel point les équipes projet vont être capables maintenant de faire de la détection et de la correction automatisée, je pense que ça a quand même une certaine limite parce que justement, un SOC, on sait en termes de surveillance, l'attaquant, quand il va prendre pied dans l'environnement, il va passer par une faille, quelle qu'elle soit, mais il va rarement s'arrêter au premier point, à son point d'arrivée. L'objectif, ça va être d'établir ce qu'on appelle de la persistance, et puis après d'aller faire du mouvement latéral pour essayer justement de prendre possession du maximum d'actifs possible. Et puis donc là ça va toucher plusieurs projets, ça va toucher ça dépend de votre segmentation, ça dépend de votre standard de sécurité, si c'est bien fait ou pas, mais potentiellement il peut être amené à rebondir sur plusieurs projets et c'est là où il faut avoir justement cette équipe sécurité, ce SOC avec cette interface unique centralisée, avec cette centralisation des alertes qui va être capable d'estimer justement ce mouvement latéral et puis de bloquer au bon niveau l'attaquant là. Pas forcément à un niveau applicatif, à un niveau infrastructure parfois.
Oui, de toute façon, c'est des défis qui sont énormes. On va arrêter là pour cet épisode-ci. On a quand même couvert beaucoup, beaucoup de sujets très intéressants. On va continuer en enregistrer d'autres. Merci énormément de ta participation et de l'apport que tu fais.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.
Salut.